9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serrane vous salue mes camarades, nous sommes le vendredi 26 avril 2019 et cette fois-ci force est de constater que le ramadan est imminent. Dépêchez-vous de faire les mécréants plus que quelques jours et vous pourrez ensuite tenter de vous faire pardonner vos péchés durant ce mois sacré. Oui mon cher Philippe, on appelle cela l'hypocrisie du ramadan, mais revenons plutôt à ce que je vous avais promis la semaine dernière, vous parlez de mon escapade en Algérie, Razaouat, Tlemcen, Razaouat. Eh bien je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris parce que j'ai vu, cette ville a fait un petit effort de propreté. Alors quand je dis petit, c'est petit hein, l'effort. Mais on part de loin, de très loin. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que j'ai vu moins de sacs en plastique bleu. Alors je vais mettre généreusement un 4 sur 20 et comme appréciation, je dis peu mieux faire. Tiens, d'ailleurs le premier jour de mon arrivée à Razaouat, le soir, je commande des pizza. J'en prends trois, hein, une au thon, une aux quatre fromages, et le type, je lui dis la troisième aux fruits de mer. Il me répond, on n'a pas de fruits de mer. Mais je lui dis, Nahalchetin, ta pizzeria est à 3 mètres de la pêcherie. Comment est-ce possible de ne pas avoir de fruits de mer? Donc je suis un peu zaffen, je lui dis, tant pis, j'en prends une à la viande hachée. J'arrive à la maison, j'ouvre les trois pizzas. Alors déjà, bizarre, toutes la même couleur, pourtant des ingrédients différents, toutes la même couleur, et en plus, hachakoum, couleur merde en plus. Malgré ça, oh là, j'ai faim parce que je suis arrivé tard ce jour-là. Résultat, je prends une part, j'ai de la fièvre toute la nuit, des vomissements. En fait, c'est simple, hein, c'était pas juste une pizza couleur merde, c'était vraiment de la merde.
Oh non.
Le lendemain, je vous jure
non,
que c'est vrai.
Non.
Le lendemain, je me rends à Tlemcen.
Qui avait tourné.
Ah ouais, je sais pas si elle a tourné, mais bon. Voilà, le harco le type là, franchement, je lui pardonne pas. Donc sur la route, le lendemain, je suis à Tlemcen et là quelques kilomètres de Razaouat, t'as un barrage militaire. Alors, c'est là le mystère algérien. Alors, pourquoi je dis mystère? Moi, individu normalement constitué, mon cher Philippe, je pensais que le militaire, tant qu'il te demande pas spécifiquement de t'arrêter, eh bien, naïf que je suis, je
pouvais
rouler normalement. Eh bien non, malheureux, surtout pas. Il faut que tu t'approches du militaire, que tu ralentisses, parfois que tu arrêtes ton véhicule. Et tant qu'il t'a pas regardé, c'est ce regard qui dit « Hey, c'est moi qui commande ». Eh bien, tant qu'il t'a pas regardé et demandé de partir, tu peux pas passer la première. On est des bolos. C'est le fait du prince. Le militaire te demande pas officiellement de t'arrêter, mais tu dois savoir que tu dois t'arrêter. Tu comprends quelque chose à cette logique. J'arrive donc à Tlemcen, après tout ça, direction plateau de l'Al-Lasseti. Et là, la classe, frère. Oh, tu y accèdes avec un téléphérique. La vue, elle est splendide. Tu te retrouves sur une magnifique place. Là, sur ta gauche, l'hôtel La Renaissance. Hôtel de luxe, frère. Hôtel de luxe. Et là, bam, mon regard se porte sur des barrières de protection qui entourent le site. Faut pas oublier qu'on a une hauteur de 600 mètres. Et là, je me dis, il n'y a pas de doute, on est en Algérie. Je remarque qu'il y a des barrières manquantes. Pourtant, c'est du béton à son cassé. Rien pour te protéger. Théoriquement, tu peux tomber 600 mètres plus bas. C'est quand même bizarre de ne pas réparer ça. Merde, c'est un site touristique. Mais ah ouais, ce n'est pas le pire. Je vois un homme qui est accoudé à la bordure de protection, mais du côté falaise, frère. Le pied posé sur un rocher, il peut tomber à tout moment. Et le type est posé là, normalement, comme si de rien n'était. Eh bien, tu vois, c'est ça l'Algérie. Des relations, des réalisations extraordinaires et des bizarreries qui font que l'Algérie est l'Algérie. Voilà pour mon escapade. Maintenant à vous la parole, hein, 01 53 48 3000. Posez toutes vos questions. Émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, le plus algérien d'entre tous. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Bien, c'est un Marriott, le Renaissance en plus. Hein. C'est joli, hein. Ouais, très bel hôtel.
Ouais, c'est un superbe hôtel, mais c'est curieux quand même. Il n'y a pas de protection, des protections
mais non,
qui sont cassées.
Et c'est, ça paraît évident qu'il faut le réparer tout de suite.
Ouais, mais quand même. Et un type posé de l'autre côté. Il prenait un petit carrois, mais de l'autre côté. C'est-à-dire, tu peux tomber, frère.
Bah, moi, je suis sûr que là, justement, les autorités, parce qu'on est écoutés à Tlemcen, vont aller réparer. Ce sera grâce à vous, maître Serrane.
Bah, écoutez, j'espère quand même. Ouais. Non, mais c'est pas joli comme ça. Des bouts de carrelage manquants. Enfin bon, l'Algérie.
Bien. Maître Serrane, je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous avez décidé de parler du droit des femmes enceintes en entreprise,
oui,
là, aujourd'hui.
C'est important, quand même.
Bah ouais, mais c'est tellement pas vous, ça.
Comment ça, c'est tellement
bien,
pas moi.
Alors, justement, alors on va parler de la législation du droit du travail. D'abord, quels sont les droits dont bénéficient les femmes lors de leur grossesse? C'est-à-dire qu'on considère que la femme est enceinte en entreprise à partir de quand? Du moment où elle l'a dit ou à partir du moment où elle l'est?
Alors, d'abord, il y a un principe, ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, vous n'êtes pas obligé de déclarer votre
grossesse
à votre patron. Bon, au bout d'un moment, ça finira par se voir, hein, sauf pour certaines femmes musulmanes qui, enceintes ou pas, on a toujours l'impression qu'elles sont rondes. Mais Sinon, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le déclarer? Puisque, bien évidemment, vous avez toute une série de droits donc, qui vont venir assurer votre protection. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, à le dire d'abord, peut-être oralement, pour pas qu'il y ait le côté trop formaliste. Et ensuite, évidemment, à confirmer tout ça par écrit, notamment recommandé à R. On revient toujours à ce problème-là. Sait-on jamais si votre employeur, pour une raison X ou Y, décide ou déciderait de entre guillemets, de faire le malin. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'à partir du moment où vous avez déclaré votre grossesse, donc en règle générale, il est conseillé de le faire dans les 3 ou 4 mois de grossesse, vous allez avoir, alors ça c'est important, vous allez avoir une protection qui va durer 16 semaines, 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Et une fois que vous avez accouché, vous avez 10 semaines après l'accouchement, là encore, entre guillemets, de protection, on va dire absolue. Alors pourquoi je dis absolue? Parce que, bien évidemment, l'employeur qui s'amuserait à vous licencier parce que vous êtes enceinte ou parce que vous avez accouché, évidemment, se fera blackbouler par la première juridiction venue. Donc c'est un petit peu plus subtil que ça. Il arrive parfois que des employeurs décident de licencier la personne qui a déclaré officiellement sa grossesse. Mais on va essayer d'être un peu plus malin et de trouver des motifs, des raisons qui, a priori, n'ont ou n'auraient rien à voir avec votre grossesse. C'est pour ça que je dis qu'il est important officiellement de déclarer votre grossesse, parce qu'imaginez 30 secondes que cette grossesse, vous ne l'avez pas encore déclarée. Et que l'employeur, demain, vous licencie pour une raison X ou Y, ce sera à vous de prouver ou d'établir que l'employeur savait que vous étiez enceinte.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est ça qui est important. Donc, encore une fois, vous pouvez le signaler oralement, mais confirmer toujours derrière par des écrits. Il y a une précision qui est importante à apporter, je n'avais pas apporté. Tout ce que je dis là ne concerne que des personnes qui ont un statut de salarié. Évidemment, si vous êtes artisan, si vous êtes commerçant, si vous êtes profession libérale, vous n'êtes pas concerné par ces mesures de protection. À partir du moment où vous avez déclaré votre grossesse, à partir du moment où vous avez bénéficié de ces congés qui sont attachés donc à cette déclaration. Souvent, la question se pose, elle nous est posée parfois par des personnes qui disent « Mais je dois reprendre, moi, mon activité à telle ou telle date. Bon, est-ce que ça va poser problème? Est-ce que je vais retrouver absolument le même poste? Est-ce qu'il est obligé de me reprendre ?» Sur le principe, oui, évidemment que l'employeur est obligé de vous reprendre. Il n'y a pas d'obligation de vous reprendre sur absolument le même poste.
Oui.
On peut vous reprendre sur un poste équivalent à partir du moment où votre rémunération est une rémunération donc qui était équivalente à celle que vous perceviez préalablement. Donc ça, c'est une obligation. Ce qui arrive parfois, il est certain que quand vous vous êtes absenté d'une société depuis un certain temps, eh ben il y a des nouvelles habitudes qui se sont créées, il y a peut-être quelqu'un qui occupe admirablement votre poste, donc il se peut que la personne quand elle revient au sein de la société soit comme on dit placardisée, c'est-à-dire qu'on peut vous donner une activité où vous allez percevoir un salaire qui ressemble, en tout cas qui est similaire à votre premier salaire, mais avec des fonctions qui sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, entre guillemets, pour essayer de vous pousser à la porte, ça arrive souvent, notamment dans les petites structures. En règle générale, dans les grandes entreprises, on respecte ça, mais dans les structures petites ou moyennes, on peut essayer de vous placardiser pendant un moment. Donc, sachez que c'est constitutif d'une faute et que votre employeur peut être condamné si, au moment où vous reprenez votre activité, eh ben, c'est une activité qui n'a a priori plus rien à voir à ce que vous faisiez auparavant.
Mais est-ce qu'il doit vous garantir de reprendre exactement le même poste?
Absolument pas.
Voilà.
Absolument pas. Non, absolument pas. Alors après, il y a la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que si vous êtes un employeur de très mauvaise foi, je le redis, et puis que vous n'êtes pas fin comme type, eh ben on va vous mettre dans un poste où effectivement vous allez vous rendre directement compte que ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez et que l'employeur fait ça que pour vous mettre à la porte. Mais très souvent, ceux qui sont de mauvaise foi sont quand même un peu plus malins, font ça de manière un peu plus sournoise. Donc on va essayer. Alors, je le redis, hein, ça se passe pas comme ça tout le temps, et heureusement. Mais il arrive parfois que la femme retrouve un pseudo-poste, et c'est un poste où on va essayer de la faire craquer. Mais encore une fois, il faut pas oublier que même si l'employeur n'a pas l'obligation de vous restituer votre poste initial, il doit quand même vous donner un poste équivalent. Et si vous avez l'impression que ça sent mauvais et qu'on vous met dans un placard, il faut pas hésiter à vous retourner contre l'employeur, puisque la loi est en la matière, en tout cas en votre faveur.
Maître Serran, les auditeurs peuvent vous interroger, poser leurs questions juridiques au 01 53 48 3000. On va à Marseille. Et c'est Nordine qui nous appelle de Marseille. Bienvenue Nordine.
Oui, bonjour Philippe, bonjour.
Bonjour Nordine.
C'est Nordine le polyglotte.
Ah, le polyglotte, c'est vrai.
Maître Serran, vous êtes terrible. Est-ce que vous avez pensé à écrire des petites nouvelles?
Non, j'en suis pas là, mais allez, lançons l'idée. Merci oui, Nordine.
Parce que tout, à chaque fois que vous racontez une petite histoire, c'est... on rentre dedans, hein, on plonge dans l'histoire.
Bon, ben écoutez.
Ah, ben ce matin, on a voyagé à Razaouette. Hein. Ouais, ce matin, on était dans le téléphérique. Hein.
Ouais. Ah oui, parce que chez Maître Serran, il a une pensée structurée. Donc, quand il vous parle de quelque chose, de son voyage et tout, c'est que c'est comme si on était en train de lire une petite histoire.
Bon, ben écoutez, ça fait plaisir d'entendre ça. Mmh. Premier appel, et voilà, et une gentillesse. Que demande le peuple?
Ah oui, et ma femme vous adore, hein. Vous êtes en train de faire de la concurrence.
Bon, ah, je me permettrai pas, parce que je crois que ma femme écoute. Donc vous cherchez à créer des embrouilles au sein de mon couple, en fait.
Voilà. Bon, ma question...
Dites-moi.
C'est pas ma question. C'est que moi, j'ai ma soeur adoptive, elle est têtue. Donc elle a obtenu un visa touristique, c'est un visa C. Et du coup, bon, son père, il est ici en France. Elle m'a dit, oui, je vais venir faire les papiers. Je dis, c'est impossible, tu peux pas faire des papiers avec un visa touristique. C'est mentionné, tu peux pas travailler, voilà.
Ouais.
Et du coup, elle m'a dit, non, on a vu un avocat. J'ai dit, bon, avec tout le respect que je dois aux avocats, je dis, ouais, lui, c'est un arnaqueur, il va t'arnaquer. Parce qu'avec un visa touristique, il va te faire des papiers, c'est impossible. J'écoute. Moi, j'écoute tout le temps la radio. Il y a un certain Maître Serran, il est connu. Ben, je vais lui poser la question et je te répondrai. Voilà, c'était
ça. Écoutez, la réponse que vous lui avez apportée est la bonne. Il est certain qu'avec un visa de cette nature, et ce qui est normal, c'est que moi, Autorité France, j'autorise quelqu'un à venir en qualité de touriste, pour être simple, et donc par définition, entre guillemets, exactement, le contrat qu'on va conclure, c'est que vous venez comme touriste et vous repartez. C'est pas un visa d'installation qui va vous permettre officiellement de demander demain après-demain un quelconque titre de séjour. Donc voilà, la loi appliquée de manière bête et méchante, c'est celle-ci. Ensuite, ce qu'on voit quand même, il arrive effectivement parfois que, encore une fois, pour des raisons X ou Y, nos clients veulent plus retourner au pays et donc ils ont ce visa C. Ça n'interdit pas, bien évidemment, de saisir les autorités préfectorales du lieu de domicile, en tout cas déclaré sur le territoire français. Très souvent, pour ne pas dire systématiquement, les autorités préfectorales apportent une réponse négative, avec l'argument que vous venez de sortir, hein, ce qui, encore une fois, juridiquement se tient. Ensuite, ce qui est fait dans ce type de dossier, quand l'intéressé dit eh « ben, malgré ça, je veux quand même contester », il faut, devant les autorités judiciaires, devant le tribunal administratif, mettre en avant toute une série d'éléments. Vous me parliez du père de l'intéressé. Il est certain qu'il y a un argument qui arrive assez souvent. Alors, d'abord, lorsque l'un des parents est de nationalité française, c'est quand même un petit plus. Je ne dis pas que ça révolutionne les choses, mais c'est un petit plus. Ensuite,
parce qu'en plus, elle est mariée, elle a des enfants.
Ah ouais, bon, donc c'est injouable. Voilà, là, je suis désolé, mais je pensais qu'on raisonnait sur une personne, voilà, seule, qui veut venir rejoindre son père ou autre. Donc, dans cette hypothèse-là, c'est difficile, mais c'est jouable. Mais non, si elle est mariée, bon, elle a un mari, elle a des enfants. Le raisonnement, mais le raisonnement basique est normal. Et là, on peut pas dire que la préfecture soit pénible. Le raisonnement étant de dire, mais chère madame, vos centres d'intérêt, entre guillemets, sont au pays. Vous avez un mari, vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous venez faire sur le territoire français?
Exactement. Donc, quand elle m'a dit qu'un avocat va l'aider, je suis resté.
Bah ouais, mais parce que le problème qui risque de se passer, c'est qu'à partir du moment où elle va griller, comme on dit, son visa, il est certain que, et je le redis, des éléments que vous me donnez, monsieur, il est peu probable, pour pas dire impossible, qu'elle soit régularisée. Résultat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, il va bien falloir qu'elle reparte au pays, mais elle va être blacklistée. Ah oui. Voilà, et ce qui est normal, encore une fois, le relationnel avec les autorités françaises.
Blacklisté par les autorités françaises.
Bah oui, parce que le relationnel, c'est même, encore une fois, un contrat de confiance. Je vous donne un visa.
Non,
vous
ça, allez... c'est Darty, ça.
Ouais, c'est Darty. Mais j'ai pas de droit à payer là-dessus.
Non, non, vous pouvez. Bon.
Donc, c'est un contrat de confiance entre la France et l'intéressé. Mais il est certain que si vous trahissez cette confiance-là, le jour où vous allez remettre un pied au pays, c'est terminé. Ça sert à rien ensuite de faire des démarches pour demander un quelconque visa. Donc c'est dommage de se griller comme ça.
Et en plus, juste en parenthèse, c'est-à-dire son mari, il a une entreprise de plomberie, il est aisé, très très bien. Je comprends pas pourquoi.
Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je reproche d'ailleurs, juste en deux secondes, souvent ça, c'est-à-dire que quand on vit correctement au pays, j'ai du mal à comprendre ce qu'on vient faire sur le territoire français, franchement. Quand on voit la situation dans laquelle se trouvent certains de nos clients, ils vivraient mieux au pays. Donc là, non, ça me semble complètement compromis, sincèrement.
Nordine, à bientôt.
Merci.
Au revoir, Nordine.
Pensez à écrire des petites nouvelles.
Bah écoutez, j'y manquerai pas et vous saluerez votre épouse de ma part.
J'y manquerai pas. Voilà. Là, c'est la vraie concurrente. Là.
Merci, Nordine. À bientôt.
Au revoir.
Allez, Maître Serran répond à d'autres questions au standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bille le string.
Alors là, vous étiez à l'antenne, voilà. Maître Serran. Franchement...
Et qu'est-ce que j'ai dit?
Bah, le string.
Non, j'ai dit vive Sting, le chanteur.
Ah oui, bah, effectivement. Vous oubliez une lettre, Maître Serran.
Mal tordu, hein.
Mal tordu, tiens, ouais. Allez, on parlait des colonies de vacances, Maître Serran, qui va envoyer ses enfants en colonies de vacances cet été. Non?
Jamais j'enverrai mes enfants en colonies. Surtout pas les filles.
Qu'il est bête.
Faut pas déconner. Non. Mais préservez vos filles, les envoyez pas en colonies de vacances.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ça? Enchaîner, Maître Serran, enchaîner.
Tiens. Qui est à l'antenne?
Anis. Anis, voilà. Est avec nous. Anis, bienvenue.
Enchanté, bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Bonjour messieurs. Comment?
Bonjour Anis.
Bonjour.
Ça commence bien.
Je vous appelle pour une question, je vais être clair et concis si je peux.
Bien sûr.
J'ai eu un jugement en 2013 suite à mon employeur qui a porté plainte contre moi.
Ouais.
Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été jugé au TGI de Bobigny, coupable. Et ensuite, suite à l'appel,
Pardon, devant un tribunal correctionnel?
C'est ça, oui.
D'accord. Et il a porté plainte pour des faits de quelle nature?
Pour fraude, abus de confiance et dissimulation de travail au noir.
D'accord. Et ça correspond, bon là on est entre nous, ça correspondrait un peu à la réalité ou pas du tout?
Franchement, non.
Non? D'accord. Bon, donc vous êtes condamné et ensuite?
Pas coupable, donc du coup ensuite commission disciplinaire auprès de la grande entreprise pour laquelle j'ai travaillé 14 ans, où j'ai été licencié par la suite. Dans l'affaire, on était deux, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était coupable comme moi pour les mêmes faits, sauf que à la commission disciplinaire, normalement, soit vous virez les deux, ou soit vous gardez les deux, il y en a un qui est resté, puis l'autre qui a été viré, donc c'est moi. Donc ma question c'est, est-ce que pour vous, c'est raisonnable?
Alors c'est raisonnable, c'est-à-dire la manière dont l'employeur...
Donc qu'un soit resté et que l'autre soit parti.
Non, alors, après tout dépend entre guillemets de la nature de la condamnation pour vous et pour l'intéressé. C'est-à-dire vous avez été condamné pour les mêmes faits, pour absolument la même histoire, il n'y a pas de difficulté là-dessus?
Non, c'est pour les mêmes faits.
D'accord, les mêmes qualifications.
Exactement.
Donc non, effectivement, ça pose problème. Dans ce cas-là, c'est tout le monde ou personne. Et à partir du moment où vous êtes, encore une fois, vous comparaissez devant cette commission, vous et l'intéressé pour des faits similaires et une condamnation similaire, et il n'y a que vous qui êtes renvoyé, ça pose difficulté. Donc effectivement, ça vaudrait peut-être le coup, vous l'avez peut-être déjà fait, de mettre ça en avant, parce que de deux choses l'une, soit si on garde votre camarade, bah soit on considère que les faits sont pas entre guillemets suffisamment graves, et dans ce cas-là, vous pouvez en bénéficier, il n'y a aucune raison de vous mettre dehors, vous. Soit on considère que les faits sont graves, mais vous, vous êtes renvoyé par votre camarade, et dans ce cas-là, on est sur un autre plan, on est sur le plan éventuellement de la discrimination. Donc l'un dans l'autre, l'employeur devra apporter une argumentation sérieuse pour essayer, si tant est que ce soit possible, de justifier sa décision. Mais ça me semble difficile juridiquement.
Alors justement, l'avocat que j'avais pris avait mentionné ces faits-là. Le fait est d'avoir cette disparité entre les deux plaignants, dans le sens où il y en a un qui est resté et l'autre qui était parti, mmh. Il avait fait foi de discrimination par rapport à cette histoire-là. Mais les juges, à l'appel du TGI de Paris, à la Cité, n'en ont pas pris en compte.
D'accord. Donc vous avez été devant le Conseil des Prud'hommes, qui vous a débouté, ça ne vous a pas donné raison, vous avez interjeté appel, et la Cour d'appel ne vous a pas suivi ?
Non, je n'ai pas pu aller au Conseil des Prud'hommes, puisqu'à partir du moment où j'ai été coupable, ça a été caduque pour moi.
Non, c'est-à-dire que vous êtes coupable sur un plan pénal, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, vous avez été licencié, a priori.
Exactement.
Voilà. Est-ce que le licenciement, lui, a été contesté ou pas ?
Oui, il a été contesté.
Devant le Conseil de Prud'hommes, je ne parle pas du tribunal correctionnel.
Ah non, pas devant le Conseil de Prud'hommes.
Ah voilà, non, mais c'est ça ma question. Que vous soyez condamné par le tribunal correctionnel et éventuellement par une cour d'appel, bon, dont acte. Ça, c'est l'aspect purement pénal de votre dossier. Ensuite, vous me dites que votre employeur, légitimement, donc, prend des mesures. Vous, vous êtes licencié, mais pas votre camarade. Ma question, c'est, est-ce que ce licenciement, qui semble comme ça, entre guillemets, injuste ou à minima discriminatoire, est-ce que ce licenciement, lui, a été contesté devant le Conseil des Prud'hommes ?
Non.
Bah, c'est donc ça qu'il va falloir faire aujourd'hui.
Même si c'est un jugement qui date de 2012.
Mais vous, vous avez été licencié quand ?
J'ai été licencié en 2013, 3 septembre 2013.
Ah ouais. Ah,
excusez-moi, le 3 septembre 2015, excusez-moi.
Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas dépassé la prescription ?
Bah oui, c'est ça, mais pourquoi est-ce que vous avez tardé ?
Eh bien, figurez-vous que j'ai été mal enseigné et que, grosso modo, mon avocat me disait que comme j'ai été coupable pour être passé au prud'homme, ça ne servait strictement à rien. Que,
voilà, bah ouais, mais alors. Bon, bah donc effectivement, donc le au moment où on se parle, ça présente pas l'ombre d'un intérêt. Mais juste pour rebondir sur ce qu'a dit votre conseil, si vous aviez été le seul dans cette situation, à la limite, c'est un raisonnement qui pourrait se comprendre. Je dis pas que vous n'avez pas pu contester, mais à la limite, pourquoi pas. Mais votre histoire est quand même singulière. Vous êtes deux, vous comparaissez pour les mêmes faits. Vous êtes condamnés tous les deux. Il y en a un seul qui garde son poste et l'autre est mis dehors. Il y a quand c'est même ça. Un problème, enfin, et je le redis, donc soit les faits sont pas graves, et dans ce cas-là, on garde tout le monde, soit les faits sont graves, et on est en matière de discrimination, mais...
Les faits sont graves.
Ah oui, enfin, manifestement.
Pour les clients en question, mais en ce qui m'a été reproché, sur les miettes de pain qu'ils ont été cherchés, prouvé par, en plus de ça, l'officier de police judiciaire de la BRI de Tolbiac, rien n'a été donné comme élément.
Ouais, mais
sur des soupçons.
Sauf que là, on va pas revenir là-dessus. Vous avez été condamné.
Ouais. Enfin, c'est terminé. C'est compliqué voilà. Donc, de refaire une instruction à l'antenne.
Ouais, en plus. Mais là, voilà. Sûr, oui. Donc là, c'est injouable. Mais non, l'erreur entre guillemets, c'est de ne pas avoir saisi le Conseil des Prud'hommes en temps et en heure. Ne serait-ce que pour mettre ça en avant, pour dire on est deux, pourquoi vous en gardez qu'un ? Et je vois pas comment juridiquement la société aurait pu apporter une explication sérieuse. Je le redis, alors il s'agissait pas de sacrifier votre camarade, mais c'est les deux ou personne.
Bien sûr.
Eh ouais. Mais bon, après, peut-être que vous avez été entre guillemets mal conseillé. Alors, je sais pas, je connais pas le confrère, je connais pas en détail votre dossier.
Ah, il y a aussi le côté où j'ai voulu tirer la page et passer à autre chose.
Non, mais il y a aussi de ça. Non, mais ça, je peux comprendre. Hein. Ça aussi, je peux comprendre.
Cette entreprise-là m'a touché au... Comment dire, ouais. J'ai commencé depuis que je suis petit, elle m'a touché au cœur. Et ce que je faisais, j'aimais beaucoup. Donc, il y avait ses habitudes et moi, ouais. J'ai travaillé. C'est vrai que maintenant, on partir sur autre chose, j'ai voulu tirer la page et j'en suis là aujourd'hui. Résultat des courses, c'est que maintenant, j'ai un casier judiciaire numéro 2 qui est anti-taché. Lorsque je me postule pour des grandes entreprises à grandes anciennes, bah, fort heureusement, je peux pas y prétendre.
Envisagez peut-être, dans ce cas-là, de demander l'effacement de votre casier. C'est peut-être, entre guillemets, la meilleure chose à faire. À partir du moment, évidemment, où... je ne vais pas revenir sur les conditions, mais à partir du moment où vous êtes ensuite, entre guillemets, tenu à carreau, vous n'êtes pas fait remarquer par la justice, il n'y a pas de nouvelle condamnation, donc vous pouvez demander l'effacement du casier, le motiver justement par le fait de dire que ce casier devient un boulet, donc ça va vous fermer plein de portes.
C'est un gros boulet.
Oui, non, mais évidemment. Mais c'est peut-être la meilleure des options et la meilleure des procédures qu'il faudrait engager maintenant.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup pour vos conseils, monsieur.
Eh bien, écoutez, merci Anis.
Bonne fin de journée, au revoir.
Au revoir, 01 53 48 3000. Alors, Amina est avec nous. Amina, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Amina.
Bonjour. J'ai un petit souci. Je ne sais pas si c'est un petit souci. Ma mère, j'avais fait une demande de carte de séjour depuis 97, hein. Donc chaque année on nous donnait un an. En 2017 on nous a donné 2 ans. C'était à la sous-préfecture. J'ai demandé à la personne qui était là qu'est-ce qu'il faut faire après ces 2 ans. Elle m'a dit ne vous inquiétez surtout pas, dans 2 ans vous revenez, on vous refera une carte de 10 ans. Bien sûr, j'ai dormi sur mes deux oreilles. Je me suis pas rendu compte qu'il fallait peut-être demander un autre dossier. Et je me présente un jour avant l'expiration de la carte. On me dit que non, il fallait aller à la préfecture de Versailles. Donc je me présente ce jour-là à la préfecture de Versailles. On me donne un dossier en me disant, vous avez dépassé votre date. Il va falloir maintenant revenir le 27 juin, par exemple, à telle heure, avec un nouveau dossier. Qu'est-ce qu'il faut faire mettre? Parce que j'en peux plus.
Je vais essayer de comprendre votre situation. Je reprends l'expression dormir sur ses deux oreilles ne veut rien dire techniquement. Comment c'est possible?
Attendez, avec un oreiller.
Comme ça, avec l'oreiller.
Vous savez, vous auriez comme ça, là, en demi-cercle.
Oui. Ah, d'accord. Peut-être. D'accord. Donc, madame utilise un oreiller en demi-cercle.
Mais peut-être. Bon. Voilà. Mais maître Serrano, téléachat, ils vont plein de
trucs. C'est vrai. Donc, après cette intervention intéressante de ma part, on va essayer de répondre à la question. Alors, vous m'avez parlé de la préfecture de Versailles, mais j'ai cru comprendre que vous étiez rendu à une autre préfecture avant?
La sous-préfecture de Saint-Germain, c'est...
D'accord, oui, voilà, en fait, les préfectures, sous-préfectures, c'est en fonction de votre lieu de domicile.
Voilà.
Votre maman est de quelle nationalité?
Elle est marocaine, nationalité marocaine.
D'accord. Alors, pourquoi je pose la question? Parce que pour les Algériens, évidemment, c'est assez particulier. On peut basculer très rapidement sur une carte de 10 ans. Pour les autres nationalités... et y compris donc les personnes de nationalité marocaine. En fait, j'aime pas le terme, mais c'est quasi le bon vouloir des autorités préfectorales. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut effectivement vous faire galérer pendant des années avec des titres d'un an, et puis quand ils jouent les grands princes, un titre de 2 ans. On sait que ça cause quand même des difficultés pour nos clients, puisque c'est au moment où vous avez votre carte qu'il faut commencer à faire des démarches pour aller préparer le dossier pour un éventuel renouvellement. Alors, il n'y a rien qui vous interdirait de contester le fait d'avoir une carte de 2 ans. Alors, quand je dis ça, on sent tout le temps un moment de panique chez les clients en me disant, mais attendez, s'il me retire la carte de 2 ans? Si vous contestez, c'est pas pour dire la carte de 2 ans, j'en veux pas. C'est pour dire, à minima, évidemment, la carte de 2 ans est à conserver ou sera à conserver. Mais que compte tenu du temps de présence sur le territoire français, compte tenu du fait que, manifestement, la vie de votre maman est sur ce territoire et que tous ces centres d'intérêt sont ici, qu'elle est stabilisée sur le territoire français, et pour éviter qu'elle fasse des démarches éternelles et tout le temps les mêmes, vous êtes en droit de solliciter un titre de 10 ans. En droit de le solliciter, ça ne veut pas dire, évidemment, que... Alors d'abord la préfecture, a priori, parce qu'il faut d'abord faire la demande à la préfecture, a priori elle va refuser, elle va être conforme à ce qu'elle vous a toujours dit, mais c'est une décision que vous pouvez éventuellement contester devant un tribunal administratif. Ce serait pas sérieux de ma part de vous dire que si vous allez devant le tribunal administratif, de facto on va vous donner raison. Mais ça vaudrait quand même le coup de faire ça, parce qu'il arrive parfois aussi, quand on saisit le tribunal administratif, que la préfecture, qui est informée de cette procédure par le juge, revienne sur sa décision avant même qu'une décision soit rendue. Vous voyez, avant même que le juge dise qui a tort, qui a raison, parfois, vous avez des préfectures qui sont, entre guillemets, raisonnables, et dans des dossiers comme le vôtre, hein, c'est-à-dire que votre maman est en France depuis très longtemps, lui a toujours remis des titres, enfin voilà, il faut quand même réunir un certain nombre de conditions, mais si, dans l'éventuel recours, vous arrivez à prouver, et ça me semble pas très compliqué, que tous les centres d'intérêt de votre maman sont en France et pas au Maroc, ça pourrait être jouable éventuellement devant un tribunal administratif.
Alors,
Amina, vous savez ce que vous faites ? Vous patientez un instant, on s'arrête quelques minutes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, et Maître Serran, dans sa grande bonté, continue de répondre à votre question. Est-ce que ça vous va ?
C'est très gentil, merci.
Voilà, et puis vous continuez à patienter en salle d'attente au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Je viens de voir circuler dans les maisons, dans les bureaux où on en parle, hein, le contrat de Maître Serran pour le mois du Ramadan. J'ai vu passer votre contrat.
Il y a beaucoup de zéros avant.
Surtout avant. Beaucoup de zéros avant la virgule.
Voilà.
Mais vous serez là.
Bah, Inch'Allah.
Hein, zéro plus zéro, la tête à Toto, comme exact, on dit, Maître Serran. Tous les soirs pendant le mois du Ramadan, 30 jours.
Bah écoutez, si on me supporte.
Du lundi, à partir du lundi, hop, 8h.
Ouais, mais je vais remplacer un ancien qui ne vient plus à cette radio et ce seront des propos plus posés.
Oui, non, cette année, on attend que vous soyez vraiment posé. Parce que c'est vous qui, tous les soirs, à 8h, vous ouvrez à l'Olimam.
Cette année, on ne parlera pas des strings des Brésiliennes pendant
rien. J'ai vu à côté de votre contrat, il y a toute une liste de sujets que vous n'avez pas le droit d'aborder.
On est d'accord.
Amina, Maître Serran répond à la deuxième partie de votre question. Merci de votre patience.
Je vous en prie. J'ai eu un monsieur, quelqu'un de responsable à cette préfecture de Versailles qui était venu me voir en me disant « Votre maman, elle n'a pas assez de revenus pour demander la carte de 10 ans. » Voilà. C'est ce qui m'avait sorti.
C'est un argument qu'on retrouve souvent. Alors, on a du mal à comprendre, d'ailleurs, puisque je vous remets une carte que votre maman gagne à ses yeux suffisamment de revenus ou pas, que ce soit une carte d'1 an, de 2 ans ou de 10 ans, on a du mal à comprendre, sincèrement. Je vois pas l'incidence directe. Donc, je le redis, selon moi, ça vaudrait le coup, peut-être, compte tenu des éléments que vous m'avez donnés, compte tenu de la pérennité de sa présence sur le territoire français, et malgré cet argument qui, en tout cas, peut sembler curieux sur le fait de justifier ça pour une carte de 10 ans et pas d'un an ou de 2 ans, ça vaudrait peut-être le coup de faire d'abord une demande écrite auprès des autorités préfectorales. Si vous avez un refus, eh ben, il va falloir le contester tout de suite. Un refus, c'est une lettre de la part de la préfecture. S'ils vous répondent pas dans un délai de 4 mois, à partir du moment où vous leur avez envoyé vous-même votre demande en courrier recommandé à R, vous serez autorisé, là encore, on appelle ça un refus implicite, c'est-à-dire que la préfecture dit non, mais elle va pas s'embêter à vous envoyer un courrier. Ça vaudrait peut-être le coup, dans ce cas-là, de contester cette situation devant un tribunal administratif.
D'accord. Et donc, j'ai pas fait attention le jour quand il m'a donné cette convocation, il m'a donné le samedi. Est-ce qu'on est convoqué le samedi pour déposer un dossier?
Une erreur, non, on a parfois des personnes qui sont effectivement convoquées le samedi. Maintenant, dans le doute, passez quand même un petit coup de fil, simplement pour vous assurer de ne pas vous présenter pour rien. Mais en tout cas, c'est peut-être une erreur, mais il n'y a rien d'intentionnel dans la situation. Les types ne sont pas tordus au point de vous fixer des rendez-vous à des
heures
de fermeture.
Ouais,
mais non, ça vaudrait peut-être le coup de d'appeler quand même. Après, peut-être que d'une préfecture à une autre, les horaires du samedi ne sont pas les mêmes.
D'accord, parce que c'est vrai que je suis un petit peu inquiète, mais là je vais carrément me déplacer, même si c'est
oui, ou après il y a ça. Bon, mais ça me semblerait cohérent si c'est un samedi matin. Maintenant, si c'est un samedi à 17h, j'ai des doutes. Mais si c'est samedi dans la matinée, oui, je veux bien le croire.
Oui, c'est bien à 11h,
ouais,
il ne
bon.
Pas être en retard, et donc il faut rapporter le dossier. Pour
ouais, non, bah début, donc, hein. Voilà, donc a priori, c'est peu probable que ce soit une erreur.
D'accord, ok, bon, bah, je vais continuer ce combat, ça fait depuis 97, j'en en peux plus.
Hein. Ah oui, dites donc,
ouais.
Oh non, mais les 5h du matin, les 4h du matin devant les préfectures, vous savez, je n'en peux plus.
Bah, après, il y a la possibilité pour certaines préfectures de prendre des rendez-vous, mais que via Internet. Quand leur site fonctionne.
C'est ça que j'ai complètement zappé. Comme on dit, d'habitude, je faisais mon dossier, je l'envoyais et je recevais ma convocation. Mmh. Et là, la fille, elle m'a dit, ne faites plus rien, ça y est, vous allez avoir votre carte de liaison. Eh ben, je me suis fait avoir.
Ah, ouais.
Voilà, donc c'est ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je sais pas si je pourrais vous poser juste une autre petite question ou pas, maître.
Vous pouvez faire... m'appeler éventuellement, voilà. Puisqu'on a du monde là qui attend.
Bon, bah, d'accord. Ouais, d'accord. Je... C'était juste pour la retraite de reversion, si
ouais.
un jour.
Oula, oui, non, mais là en plus, il faut. Ouais, voilà, la réponse risque d'être longue. Je vais d'accord. m'autoriser non, à, non, vous, non. à vous donner mon numéro. Vous m'appelez quand vous voulez, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous.
Merci
et
à vous, Amina.
Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
Amina. Merci beaucoup, Amina.
Merci. Au revoir.
Allez, Carcassonne, la cité de Carcassonne. Et Mohamed est avec nous. Bienvenue, Mohamed.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour, Mohamed. Alors,
bonjour.
Ça va bien. Qu'est-ce que Maître Serran peut faire pour vous?
Alors, donc moi, ma question, donc, et, si vous voulez, donc ça fait 27 ans que je suis sur le territoire français. Donc j'ai fait toute ma scolarité ici, mes études supérieures ici, j'ai un emploi, j'ai des revenus qui sont assez bien, qui me permettent de remplir toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la nationalité française. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours rien.
La demande a été formalisée quand Mohamed.
Alors, si vous voulez, j'ai fait déjà deux demandes, déjà ça fait 10 ans, où sans cesse, tous les trois mois, me demander des actes de naissance de moins de 3 mois.
Ouais.
Étant donné que je suis né au Maroc, donc chaque fois, il a fallu me faire
les
actes de naissance du Maroc. Donc, quand ça arrive ici, donc je renvoie, donc j'attends encore un suite. Donc, systématiquement, on faisait comme ça. Et dernièrement, j'ai refait une nouvelle demande, parce que voilà, j'ai eu une promotion sur mon poste que j'occupais. Donc j'ai refait une autre demande en octobre 2017. Et puis, étant donné que sur Carcassonne, tout est rapatrié sur Montpellier, le seul moyen de contact, c'est les mails. Donc, et puis ensuite, j'ai essayé d'appeler par téléphone, et j'ai vu quelqu'un, service de naturalisation, qui m'a dit, monsieur, il faut attendre.
Donc, alors,
là, depuis octobre 2017, je suis toujours en attente.
Octobre 2017, ouais, ça me semble particulièrement long. Alors, après, honnêtement, d'une préfecture à une autre, ce serait pas sérieux de vous dire quel est le délai d'attente là où vous avez déposé le dossier. Mais c'est vrai qu'un délai, entre guillemets, normal, si tant est que ça puisse être normal, on est entre 18 et 24 mois. Donc, délai normal.
Oui.
Si passer entre guillemets ce délai qu'on peut considérer comme normal, aucune réponse n'est apportée, eh ben il va falloir dans ce cas-là prendre cette initiative et faire ce que je disais à l'une des auditrices, c'est-à-dire qu'il va falloir interpeller les autorités administratives par lettre recommandée à R. Alors encore une fois, hein, je fais pas moi la promotion de la lettre recommandée à R, mais c'est pour l'instant le truc le plus intéressant qu'on ait pour ensuite entamer des procédures si c'est nécessaire. Donc c'est toujours un courrier recommandé à R pour indiquer donc à ces services que vous les avez saisis à telle date. Qui vous ont demandé manifestement X documents, que vous avez fait le nécessaire et que à l'instant T rien n'a été fait, que vous n'avez pas de retour et que vous êtes donc dans ce cas-là autorisé à considérer que c'est ou que ce serait un refus implicite. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les autorités préfectorales, ça peut sembler curieux mais dans l'administration c'est comme ça, peuvent décider de ne pas vous répondre. Et pour eux, ne pas vous répondre, c'est un refus de traiter votre dossier. En tout cas, une réponse négative. Mais au lieu de vous envoyer un courrier pour dire « je veux pas pour telle ou telle raison », je vous envoie rien, moi, préfecture, et à vous de deviner, entre guillemets, que ce silence vaut refus.
Et mais pour quelle raison le refus ?
Ah non, bah ouais, mais c'est toute la difficulté, monsieur. Bah, c'est toute la... Non, non, j'en ai aucune idée.
Les conditions qu'ils ont mises sur le dossier, j'ai...
Mais de ce que vous me dites, de ce que vous me dites, effectivement, les conditions semblent réunies. Maintenant, je le dis souvent, les autorités préfectorales disposent d'un pouvoir discrétionnaire en matière de nationalité. Discrétionnaire, ça veut dire je fais ce que je veux. Ça veut dire que moi, ma nationalité française, même si vous êtes le type le plus admirable du monde, si vous réunissez toutes les conditions financières, de logement, tout ce que vous voulez, j'ai le droit de la refuser. Et j'ai le droit de l'attribuer à quelqu'un qui réunirait aucune condition.
Ben, c'est tout à fait ça.
Voilà. Bon, ça arrive moins quand même. Quelqu'un qui a zéro condition, si, sauf le type, là, j'ai oublié son nom, qui avait sauvé une personne.
Oui.
Voilà. Donc, mais le oui, ils ont le droit, même si vous réunissez toutes les conditions, de dire nous, on veut pas. Après, ce pouvoir discrétionnaire va être profondément entamé et limité si vous contestez devant un tribunal. Devant un tribunal, ils devront quand même apporter à minima des arguments sérieux sur des faits très précis pour dire, eh ben, on veut pas parce que ceci, parce que cela.
D'accord.
Donc, ce qu'il faudrait peut-être pour, entre guillemets, essayer de dater la chose, vous envoyer le recommandé, vous expliquer ce que vous êtes en train de me dire, et puisque vous n'avez pas eu de retour depuis X temps, vous pouvez leur indiquer que, à défaut de retour dans un délai de 4 mois, vous allez considérer que c'est un refus implicite, et puis, de deux choses l'une, soit ils vous répondent explicitement, c'est-à-dire vous recevez un courrier, mais c'est négatif, et ben dans ce cas-là, il faudra aller devant le tribunal, soit on vous dit oui, et puis vous êtes quelqu'un de content, et soit on ne vous répond pas dans ce timing, et vous serez autorisé à aller devant le tribunal administratif.
D'accord, parce que j'ai été rencontré un avocat, où je lui ai amené le dossier, mais la seule chose qu'il a pu me dire, c'est de réunir les documents, mais je lui dis que ce qu'on allait refaire, c'était une nouvelle demande. Tous les documents qu'il me demandait, c'est ce que j'avais envoyé lors de la promesse dans la
demande. Mais c'est vrai que, bon, encore une fois, je connais pas la situation très précise, on va pas jeter la pierre, mais souvent les préfectures essaient de vous pousser à bout. Voilà, donc ils font en sorte que vous puissiez vous arracher les cheveux, alors soit pour abandonner tout simplement et dire bon bah si c'est comme ça tant pis et je m'en fous. Donc non, il faut encore une fois, faut pas lâcher l'affaire. Ils vont jouer avec vos nerfs, mais essayer d'être plus intelligent qu'eux. Donc procéder de la sorte, courrier pour faire courir ce timing et passer un délai de 4 mois, pas de réponse, saisine du tribunal administratif.
D'accord, donc le délai légal, c'est combien de mois ?
Alors, le délai pour traiter un dossier de cette nature, c'est pas un délai légal, il est pas dans les textes. Moi, je vous donne les délais que je vois en région parisienne, on est entre 16 et parfois, enfin plutôt entre 18 et 24 mois.
D'accord.
Donc, délai, on va dire, normal et raisonnable. Hein.
D'accord.
Okay, voilà.
Ok, super. D'accord, ça marche.
Voilà, Mohamed.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Bonne continuation.
Au plaisir. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelqu'un en 3 minutes ? Alors, Abdella, vous avez 3 minutes avec Maître Serhan. Abdella, bienvenue.
Oui, bonjour.
Merci.
Maître Serhan, bonjour. Philippe, Monsieur Philippe, bonjour aussi. Merci pour vos introductions, Maître Serhan, entre parenthèses.
Oui, mais c'est le terme « merci pour vos introductions ». Ah, ça peut être interprété...
Non.
Si, mais
non.
Si, parce que non, mais justement, parce qu'il y a Philippe Robichon qui me regarde bizarrement, donc...
Non, j'ai bien compris. Laissez-moi, j'ai rien à voir avec ça.
Ah bon, d'accord.
Abdallah, vous avez 3 minutes, ne cherchez pas à mettre Serhan, on va pas s'en sortir. Allez-y.
D'accord. En fait, ma question est aussi simple. J'ai reçu un courrier des impôts me proposant une demande de rectification concernant les impôts. En fait, j'ai travaillé avec quelqu'un en sous-traitance et c'était sa société et moi je travaillais c'était en 2017. Et là, il me demandait une rectification concernant les impôts, il me demande 3000 euros, de payer 3000 euros.
Ouais.
Dans un délai de un mois. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis perdu. Moi, c'était pas vraiment mon intention de tricher ou quoi que ce soit. C'était un oubli de ma part. Quoi.
Non, mais si c'est un oubli de votre part, il n'y a pas de difficulté. Vous allez apporter une réponse. Et si, malgré cette réponse, il considère que ça a été une erreur de votre part et que cette somme est due, Bah malheureusement, il n'y a pas mille options. C'est-à-dire que vous serez autorisé à régler en plusieurs fois. Maintenant, si on vous répond, bah non, monsieur, effectivement, vous m'avez apporté une explication et elle tient la route, ils peuvent annuler ça.
Ouais.
Mais si cet argent est dû à la suite d'une erreur involontaire de votre part, bon,
l'administration fiscale en tient compte.
Oui, voilà, ils vont pas vous embêter plus que ça. Hein.
Parce que moi, je voulais contester, mais en fait, je suis un petit peu entre, excusez-moi le terme, entre deux chaises. Le fait de contester, ils peuvent se dire, bon, écoutez, on va oublier ça, mais on va vous sortir, je sais pas moi, 10 ans derrière.
J'entends bien, mais on n'est pas obligé d'avoir forcément l'image des impôts tels que vous l'évoquez là, sincèrement. Il y a manifestement, et a priori vous le reconnaissez, il y a une erreur de votre part. A priori.
Oui, un oubli.
On est d'accord là-dessus. Est d'accord là-dessus. Justement, les impôts vous disent, cher monsieur, il y a eu une erreur ou un oubli. Merci de rectifier la chose. Alors, je suis désolé, puisqu'on fait plein de signes, ça va, l'émission, cette agréable émission va se terminer. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'appeler au 06 plutôt. Ah, oui. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, Abdellah. Merci de votre intervention, Maître Serran. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve vendredi prochain avec tellement de plaisir. Une semaine sans vous, c'est tellement long.
C'est plaisir partagé.
Voilà, je vous rappelle que Maître Serran sera tous les soirs du mois de Ramadan à 8h à l'Olimam. Donc notez bien le rendez-vous. Je sais que vous vous en régalez par avance. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 11h pour vos petites annonces.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.